بس ليل إلى سيزار.
La 32e édition du FIGRA, Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société, s'est déroulée du 1er au 5 avril à Douai. Lors de cette édition, la réalisatrice Sophia Fischer a proposé un film qui analyse l'infanticide sous l'angle du patriarcat et des violences faites aux femmes. Le documentaire y a reçu deux prix, celui des activités sociales de l'énergie, autrement vu, et le prix Eina Roger ESJ Lille. Entretien avec Sophia Fischer autour de son reportage « Mère à perpétuité ».
La première étincelle, c'était la fin du confinement. Je me posais beaucoup de questions sur la maternité et sur ce qu'on léguait aux enfants, sur la violence faite aux femmes et donc quels impacts ça pouvait avoir sur les enfants. Et là, ma productrice m'a appelée et m'a dit « Est-ce que tu veux faire un film sur l'infanticide ?» Au début, je lui ai répondu « Écoute, je n'ai jamais fait de film, je ne sais pas, mais laisse-moi quelques mois quand même, je vais creuser, je reviens vers toi. » Parce que je sentais déjà à l'époque qu'il y avait effectivement quelque chose. Et oui, j'ai appelé des contacts que j'avais dans mon répertoire d'avocats. Et je leur ai demandé s'ils pouvaient m'ouvrir leur dossier. Et au bout du... Je pense que ça devait être le quatrième ou le cinquième dossier que j'ai refermé, parce que je lisais exactement les mêmes phrases, je lisais les mêmes dossiers, alors que c'était des femmes qui avaient 5, 10, 20 ans d'écart, qui habitaient partout en France. Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment un sujet à creuser. Au même titre que pour les féminicides, il y a 15 ans, on ne voyait pas le systémisme derrière et que c'était des soi-disant des événements isolés. Je me suis dit, là, il faut qu'on les rassemble parce qu'ils ont des éléments rassembleurs.
Il y a un véritable tabou autour de ce sujet. Donc, le documentaire s'ouvre et se ferme sur la même phrase. En France, il y a un enfant qui est tué tous les 10 jours par sa mère. Et il y a un cruel manque aussi de statistiques autour de ce sujet. Est-ce que, justement, commencer à mener des études, à répertorier aussi tous ces infanticides et tout ce qui gravite autour des procès, des sujets au cas par cas. Vous avez dit que vous retrouviez les mêmes phrases à chaque fois dans chaque dossier. Est-ce que l'étude de tout ça, ça permettrait pas déjà de mettre en lumière ce sujet aussi et potentiellement après de le traiter ?
Évidemment, je pense que bien sûr, il y a un besoin d'étudier. En fait, pour pouvoir combattre quelque chose, faut connaître ses contours et faut savoir à quoi on a affaire. Et là, on n'a aucun chiffre effectivement actuel. Comme pour les féminicides il y a 15 ans, encore une fois, on n'a pas de chiffres nationaux. Il n'y a pas d'effort national de rassembler ces cas. Donc tout dépend de comment l'officier de police ou de gendarmerie ou le gendarme remplit le dossier initialement. Donc il y a énormément d'erreurs, de trous, il n'y a pas de registre national là-dessus. Et tant qu'on n'a pas déjà la base étant les chiffres corrects, c'est très difficile de savoir comment lutter.
Il y a une pluralité de femmes interrogées dans ce documentaire. Il y a des femmes qui ont connu une proche qui s'est suicidée et qui a tué son enfant. Il y a ces femmes qui ont survécu aussi au suicide et qui sont aujourd'hui en prison. Comment vous avez fait aussi pour contacter ces femmes en prison ?
Alors je leur ai écrit une lettre, j'ai écrit la même lettre à tout le monde où je présentais le projet, j'ai expliqué que je cherchais des personnes qui étaient touchées par la question pour qu'elles m'expliquent, pas forcément pour être filmées, pas pour les enregistrer, juste pour qu'elles m'expliquent, pour écouter leurs paroles et c'était tout. Et j'ai écrit cette lettre à des dizaines et des dizaines de personnes, il y en a énormément qui m'ont répondu, en prison ou pas. Et donc j'ai parlé à des dizaines de personnes, toutes n'ont pas accepté de figurer dans le film. Mais leurs récits ont nourri aussi la narration du film, évidemment.
Vous faites intervenir aussi un psychiatre, si je ne dis pas de bêtises, c'est Monsieur Lecambre, c'est
Lacambre.
Ça ? Lacambre, pardon. Et il parle en fait d'un long processus. Ce sont plusieurs vagues qui viennent heurter ces femmes. Et il y a aussi un avocat,
Jean-Guillaume Lemaintier.
Voilà. Merci. Qui explique que les femmes passent à l'acte à cause des violences qu'elles ont subies et les hommes, eux, passent à l'acte du fait de violences, en fait.
Oui, très souvent. Alors, il dit ça, mais il y a aussi des chercheuses américaines qui ont fait des études là-dessus qui le disent. C'est que, en fait, ce qu'elles remarquent dans les études qu'elles ont pu faire, c'est que les femmes tuent leurs enfants dans la continuation des violences qu'elles subissent, là où les hommes tuent les enfants dans la continuation des violences qu'ils exercent. Et c'est une différence qui est très importante en fait dans la généalogie du crime.
Et donc du coup on parle de prise de décision à un moment donné. À aucun moment il est évoqué l'idée d'un coup de folie. En général, ces femmes, à force de subir des violences, prennent la décision d'arrêter tout ça, en fait, en se suicidant et en emmenant leur enfant avec eux pour pas le laisser tout seul face à tout ça, en fait.
Oui, très souvent, c'est ce qu'on leur reproche d'ailleurs aux assises, c'est la préméditation. Ce ne sont pas des cas, il y a très peu de cas qui se passent d'un coup. Il y a une préméditation, c'est des femmes, c'est très souvent des cas de meurtre très organisés. Donc on va préparer un goûter, emmener l'enfant au parc ou à la fête foraine, dans un endroit qu'il aimait bien, ou à la plage. Après, on va lui préparer un super goûter. En fait, tout est très bien organisé et c'est aussi quelque chose qu'on va leur reprocher au moment des assises, c'est la préméditation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les femmes tuent comme... Enfin, les mères tuent comme elles ont été mères. C'est-à-dire que tout est préparé, tout est cadré, tout est bien fait et bien prévu. Donc elles tuent comme elles ont été mères, en fait.
Nous sommes toujours en compagnie de Sophia Fischer, réalisatrice du documentaire « Mère à perpétuité ». Un film qui analyse l'infanticide sous l'angle du patriarcat et des violences faites aux femmes. Ce reportage a reçu 2 prix lors de l'édition 2025 du FIGRA, Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société, qui avait lieu du 1er au 5 avril à Douai.
Alors il y a effectivement des cas d'infanticide qui sont liés à des dépressions postpartum, mais moi ce que j'ai trouvé souvent c'est que on avait l'impression que si l'enfant survivait à ce qu'on appelle les fameux premiers 1000 jours, il était sorti d'affaire. Or, on se rend compte qu'il y a aussi une énorme partie des infanticides qui se déroulent sur des enfants plus âgés. Des enfants qui parlent, qui vont à l'école, qui ont déjà des petites personnalités, qui ont une couleur préférée. En fait, l'enfant ne cesse pas d'être en danger à partir du moment où il n'est plus un nourrisson. Donc oui, effectivement, évidemment, la dépression postpartum est un facteur de danger, mais le danger ne cesse pas quand l'enfant a atteint 1 an à peu près, quoi.
Derrière chacun de ces infanticides, il y a aussi un homme, alors soit qui exerce des violences, soit qui est aussi dans le déni et qui ne voit pas sa conjointe, sa femme, on va dire mourir à petit feu.
Oui, j'ai eu un dossier qui m'a semblé extrêmement parlant à ce niveau-là. C'était une femme, donc elle était pédiatre et son mari était violoncelliste. Et elle dit dans son audition chez les policiers, à chaque fois que j'essayais de lui dire à quel point je souffrais, il sortait son violon et il se mettait à jouer. Et je me suis dit, en fait, il y a tout dans cette scène.
Est-ce que vous avez pu parler à des pères ou des maris qui auraient vécu justement l'infanticide de leur enfant ?
Oui, oui, j'ai parlé à plusieurs maris, enfin pères, qui ont perdu leurs enfants à un infanticide de leur ex-conjointe. La majorité du temps, ils étaient en colère. Ceux qui n'étaient pas, en fait, les auteurs des violences étaient en colère contre la société d'avoir abîmé, heurté la mère de leurs enfants au point où, en fait, elle en soit arrivée à ce stade de fragilité-là. Ils n'étaient pas en colère contre elle, en fait. Ils étaient en colère contre le monde entier, mais pas contre elle. Sauf un père qui participait beaucoup aux violences physiques, psychologiques contre sa conjointe et lui continuait à dire qu'en fait c'était une folle mal alignée et que, je cite, il a eu la malchance de tomber sur une tarée.
Aujourd'hui on se demande aussi s'il n'y a pas des failles dans le système de santé parce que, alors vous échangez aussi avec le public à l'issue de la projection du documentaire et vous disiez aussi que vous étiez étonnée par le nombre de femmes qui pouvaient venir vous voir après les séances, qui pouvaient aussi vous envoyer des mails, des courriers pour après avoir visionné justement ce documentaire. Et beaucoup de femmes qui disaient aussi que elles avaient toute une porte de secours, elles y avaient déjà pensé. Et souvent aussi, via l'idée d'utiliser des médicaments, et que c'était des femmes, très souvent, qui avaient accès aussi à des anxiolytiques.
Beaucoup de femmes aujourd'hui ont accès à des anxiolytiques. En France, on a une quantité de consommation d'anxiolytiques qui est hallucinante. Et donc, oui, je m'interrogeais en fait face au nombre de... Dans tous les cas que j'ai pu voir, c'était toujours avec des médicaments que les meurtres avaient été commis. Donc en fait, il y a toujours la question qui se pose de mais si elles ont accès à ces médicaments-là, surtout en plus que c'était des anxiolytiques assez puissants, je me disais mais comment est-ce que personne ne s'est interrogé en fait sur l'état réel de leur patiente. Et puis pour les femmes qui viennent me voir à la fin des séances, c'est vraiment des femmes qui me disent bah, moi j'ai un tiroir. Mais il y en a une notamment qui m'a dit j'avais eu un tiroir pendant des années fermé à clé avec des médicaments pour le jour où mon fils et moi on devrait quitter ce monde quoi. Et ça c'est des femmes qui aujourd'hui vont au travail, vont aux réunions parents prof, personne ne se doute de rien, or chez elles il y a un tiroir fermé à clé avec des médicaments au cas où un jour elles doivent tuer leur enfant et se suicider. On a du mal à comprendre à quel point il y a un nombre incroyable de femmes qui ont déjà pensé à ça et qui en plus ont déjà un scénario très précis dans leur tête.
Quand vous avez posé la question aux avocats avec qui vous aviez déjà été en contact, est-ce qu'ils avaient déjà eu une affaire avec un infanticide ? Ils vous ont tous répondu oui. Devant l'ampleur de tout ça, est-ce qu'il y a des personnes qui se mobilisent peut-être pour essayer de mettre en place des cellules d'écoute, des groupes de parole, d'accompagnement ?
Non, pas du tout. Pour l'instant, il y a comme vous l'avez dit au début, c'est un sujet extrêmement tabou. Personne ne se mobilise vraiment là-dessus. Dans les années 80, j'ai trouvé des traces d'un mouvement féministe au Japon qui s'organisait pour aller devant les tribunaux pour soutenir les femmes qui avaient tué leurs enfants. Donc, elles faisaient un sitting devant les tribunaux. Il y avait même des manifs, parfois, où elles disaient « Femme infanticide, je te comprends ». Donc, il y a eu, parfois, dans les mouvements féministes, certaines vagues qui ont essayé de s'organiser. Mais, en fait, c'est un tabou tellement immense que c'est vrai que c'est très difficile, aujourd'hui, d'organiser un mouvement autour de ça.
Alors, comme d'habitude, il va peut-être falloir que ça commence par les femmes, avec les femmes. Vous citez aussi le cas d'un infanticide en Belgique où des femmes ont écrit à la procureure.
Ça, c'était exceptionnel. C'est un infanticide qui est très connu en Belgique. C'est une femme qui a tué ses 5 enfants. Et en lisant le dossier d'instruction, mais vraiment, comment par hasard, quoi, dans une annexe, je tombe sur des dizaines de lettres qui avaient été écrites par des femmes, que les femmes avaient envoyées spontanément à la juge d'instruction pour dire « Madame, s'il vous plaît, soyez clémente, j'aurais pu faire la même chose ». Et c'était des boulangères, des profs, des femmes au foyer qui avaient dit « Voilà, moi je la comprends, j'aurais pu faire la même chose, s'il vous plaît, soyez clémente ». Et j'ai trouvé ce mouvement de solidarité envers une femme qu'elle ne connaissait pas, dont elle avait vu passer aux infos qu'elle avait tué ses 5 enfants, et leur réflexe, pas à une, pas à deux, mais à des dizaines, c'est de prendre un papier et d'écrire une lettre à la juge d'instruction pour lui dire « Attention, j'aurais pu faire la même chose, la majorité de mes amis aussi, donc prenez ça en compte dans votre jugement ».
Pour terminer, ce documentaire, il va contribuer justement à essayer de sortir de ce tabou. Est-ce qu'il a une suite de vie prévue, des projections prévues autour de différents événements comme le FIGRA ?
Alors oui, il est de nouveau en ligne sur la plateforme d'Arte, je l'ai appris ce matin, jusqu'au 30 juin. Et on espère faire d'autres festivals comme celui du FIGRA, évidemment.
C'était un reportage réalisé lors de la 32e édition du FIGRA, Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société qui s'est déroulé du 1er au 5 avril à Douai. On était en compagnie de Sophia Fischer, réalisatrice du film documentaire Mère à perpétuité et qui a reçu 2 prix lors de l'édition 2025 du FIGRA. Le prix des activités sociales de l'énergie, autrement vu, et le prix Eina Roger ESJ Lille. Un reportage réalisé par Laura Becker pour Radio PFM.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Vous êtes à l'écoute de Radio Campus, la radio libre sur 106,6 MHz ou à travers le monde sur www.campuslille.com.
Sous la chaleur, le goudron fait des bulles, la bouche en cœur, un seul nuage, c'est la lune. Comment ne pas bâiller sous ces températures ? Reste serein devant la montée du mercure, j'aime sa façon de faire des petits sauts.
pour éviter les vagues. En entrant dans l'eau, je me vois au ralenti courir dans le décor avec un standard de baril en fond sonore. Vamos à la playa, deux ou trois balles en plein cœur. Vamos à la playa, Cupidon charge au fusil mitrailleur. Vamos à la playa, les temps sont durs pour les rêveurs. Barbecue géant, concours de coups de soleil. Un banc de vacanciers vient d'échouer sur mes orteils. Comment se faire remarquer sur ce rivage? Sous les serviettes, la plage, dans une chanson d'amour ordinaire. Avec coucher de soleil, violon réglementaire. Je t'offrirai ton prénom sur un grain de riz. Tu m'écrirais des petits mots en faisant des ronds sur les i. Vamos à la playa, deux ou trois balles en plein cœur. Vamos à la playa, Cupidon charge au fusil mitrailleur. Vamos à la playa, deux ou trois balles en plein cœur. Vamos à la playa, Cupidon charge au fusil mitrailleur. Vamos à la playa, les temps sont durs pour les rêveurs. C'est la fin de journée, le soleil redescend dans la mer se coucher. Y a ce grand type un peu con qui partage ta serviette, il est prof de plongée. De ses yeux de coquère, il te raconte blessé qu'il sort d'une grande histoire, enfin, qu'il a besoin de chaleur, qu'il est pote avec un dauphin. Bras dessus, bras dessous, des épaules taillées à former une éclipse. Sans dessus, sans dessous, j'avale le calice. Ips. Allez, partons tous les deux dans ce petit avion qui survole les plages, entraînant dans le vide, seul en bandeau qui flotte au vent. Nous écrirons dessus Just Married. Vamos à la playa, deux ou trois balles en plein cœur. Vamos à la playa, Cupidon charge au fusil mitrailleur. Vamos à la playa, deux ou trois balles en plein cœur. Vamos à la playa, Cupidon charge au fusil mitrailleur. Vamos à la playa, les temps sont durs pour les rêveurs.
Thank you. sur vous-même. Chloé, vous êtes prêts? Attention pour la marche. 3, 2, 1.
Top départ pour la première édition de l'Urban Trail à Wallers-Arambert le dimanche 9 mars. La municipalité et les associations communales ont organisé une course de 10 km en marchant ou en courant pour découvrir le patrimoine de la ville. Au site minier d'Arambert, un village d'animation avec la présence du VFC Valenciennes Club.
Monsieur de Almeida, ambassadeur au VFC.
Alors maintenant, le VFC a une histoire à part entière avec la ville de Wallers-Arambert.
Depuis la signature du partenariat avec la ville le mois dernier, toujours dans cette idée et dans cette volonté du club de se réancrer sur le territoire. Donc voilà, on a un programme à destination des collectivités actuellement. Et la ville était très intéressée, ça s'est fait assez naturellement entre les deux parties.
Qu'est-ce que symbolise Wallers-Arambert pour un club comme le VFC ?
C'est une ville historique du territoire qui aussi sportivement représente le territoire sur plusieurs événements autres que le football. Donc c'était toujours aussi intéressant de nous se lier avec la ville. Et la ville réciproquement, comme j'ai déjà dit, avait cette volonté aussi de remettre en avant le club.
Intégrer le patrimoine footballistique et le patrimoine minier aussi dans un même t-shirt presque.
Enfin, la ville est présente sur le maillot, comme je l'ai dit, c'est toujours dans cette stratégie de se rentrer sur le territoire et de représenter fièrement le territoire. On est dans les clous, que ce soit entre la ville et le club, donc tant mieux.
Quelles actions pourriez-vous mener ici avec la ville de Wallers-Arambert? Déjà être présent sur le Urban Trail, la première édition?
Oui, effectivement, on est présent aujourd'hui sur l'Urban Trail, donc il y aura d'autres événements avec la commune prochainement. On nous a sollicité sur la journée du développement durable. Il y aura d'autres actions qui vont être menées et aussi dans ce partenariat-là. Le plus important, c'est que les gens puissent aussi revenir au stade, soutenir le club et surtout à des tarifs préférentiels pour les communes. Donc c'est toujours intéressant pour les gens de redécouvrir le stade. Et nous, on a cette volonté que le stade redevienne un lieu de vie pour le territoire et pour les gens du territoire. Donc c'est une première étape aujourd'hui à l'Urban Trail.
Que le VFC ne se cantonne pas à Valenciennes, c'est ça, c'est élargir aussi votre champ de communication.
C'est exactement ça. Aujourd'hui, dans cette stratégie-là, c'est que les gens se réapproprient le stade avec son histoire, avec ses valeurs. Et aujourd'hui, ça commence par la ville de Wallers. Il y a eu d'autres communes qui nous ont rejoints dernièrement, comme Somain, Bouchain ou Olchain. Et en espérant que ça continue à prendre.
J'ai vu que des joueurs aussi ont rendu visite à des collégiens, à des écoliers.
Il y a eu les dictées dans les écoles. C'est ce qu'on propose de manière différente dans ce programme à destination des communes. Il y a la possibilité dans ce programme-là que les joueurs se déplacent en fonction aussi des projets des communes, parce que chaque commune a ses projets éducatifs ou socio-éducatifs ou socio-médicaux, enfin peu importe. Donc nous on essaie de répondre présent avec ce type de demande, que les joueurs se déplacent ou autre.
C'est bien plus qu'un joueur sur le terrain, c'est un joueur accessible, un joueur aussi qui répond aux questions aussi des enfants.
Oui, il y a cette partie-là. Il faut aussi revenir au basique. Ça reste des relations humaines, tout simplement. Et il faut aussi que les enfants se rendent compte que un joueur de foot, c'est aussi un citoyen comme les autres, et qu'il est accessible et qu'il puisse se rendre disponible pour ce genre d'événement. Donc oui, c'est avant tout des relations humaines.
Comment elle va continuer cette aventure prochainement ?
Les actions aujourd'hui, toujours dans cette stratégie de se réancrer sur le territoire, on a ce programme à destination des communes, on a aussi des programmes à destination des commerçants. Voilà, on essaye de répondre aux besoins de chacun et chacune pour que les gens reviennent au stade, se réapproprient l'histoire, se réapproprient le club aussi de manière culturelle et territoriale. Donc on va continuer sur cette stratégie-là en espérant que les gens répondent présents, et on essaiera d'être le plus présent possible.
Le Handball Club de Saint-Amand-les-Eaux.
Louise, joueuse en centre de formation depuis un an.
Et Quentin, éducateur socio-sportif au club. Pourquoi être présent ici ?
Avant tout parce que du coup on nous a proposé de venir cet après-midi participer à cette Urban Trail en tant qu'animation, et en tant que club professionnel féminin on se devait aussi de participer à cet événement pour promouvoir ce côté sport féminin.
Et puis c'est en même temps ici le sport et en même temps le patrimoine, c'est ça qui vous a plu dans ce projet ?
Oui, c'est ça, tout à fait. On se devait de venir participer et puis de voir aussi d'autres associations qui viennent participer avec les mêmes valeurs que nous. Ça nous fait extrêmement plaisir.
De partager votre passion du sport en tant que joueuse ?
Oui, totalement. Bah, c'est très intéressant que le club nous inclue dedans, quoi, de pouvoir venir en tant que joueuse aussi. Moi qui pratique tous les jours le handball, qui vise le haut niveau, de pouvoir venir un peu parler de ce que je fais, de limite donner envie aux jeunes de faire ce sport, etc. Et aussi de promouvoir le club et le sport féminin, quoi.
Comment promouvoir ce sport et en particulier féminin ?
Déjà en venant ici en tant que joueuse féminine, avec ma présence et en parlant de tout ce qui peut se passer et de qu'on est capable, quoi.
Vous essayez de repérer des futurs sportifs alors ?
Totalement. C'est pour ça qu'à chaque fois je demande vous faites quel sport, vous aimez les sports, vous en faites depuis combien de temps ? Parce que c'est sympa aussi de discuter et de voir. Parce que souvent quand on est jeune, en fait, on fait du sport pour profiter et c'est normal. Et c'est après qu'on se rend compte si on a envie d'aller loin, quoi. Mais le plus important, c'est vraiment le plaisir, quoi.
Est-ce que les jeunes se tournent vers le hand maintenant ?
Ils se tournent davantage vers le hand grâce notamment à notre magnifique sport qui récolte à chaque fois des médailles, notamment aux Jeux Olympiques. Et là, en plus, avec les Jeux Olympiques de Paris, c'est encore plus pris d'ampleur. Et nous, au sein du club, on l'a vu, on a encore eu une augmentation de licenciés, notamment chez les féminines encore, qui du coup nous permet d'en avoir plus en plus et du coup attire.
C'est quoi les atouts pour être une bonne joueuse de hand ?
Déjà je pense que c'est pas un atout mais avant tout le travail, je pense que c'est vraiment la base des choses. Prendre du plaisir comme je disais, travailler et après on le sent quand on est passionné, ça vient tout seul en fait, on se pose même pas de questions, quoi.
Comment vous êtes entrée dans ce club ?
Là, ça fait un an que je suis rentrée en centre de formation. J'ai commencé le hand milieu 6e à l'âge de 12 ans. À l'école, j'avais découvert ce hand avec une copine et en fait, ça m'a vraiment plu. Avant, je faisais 4 ans de natation et j'avais envie de passer à un sport collectif. Et du coup, je me suis lancée dans le hand. Ça s'est vite concrétisé avec pas mal d'échéances. Et voilà, aujourd'hui, je suis rentrée à Saint-Amand handball et je suis très contente d'être en centre de formation et de pouvoir être dans ce club, quoi.
Et aujourd'hui, vous visez le professionnel ?
Oui, totalement. Mon objectif, c'est vraiment d'être professionnel. Et je pense qu'à partir du moment où on est en centre de formation, c'est que vraiment on a envie de toucher au haut niveau et qu'on a vraiment décidé de ça, quoi. Enfin, c'est possible de bifurquer vers d'autres chemins, mais vu tout le travail qu'on met derrière, etc., c'est vraiment qu'on a envie d'aller au haut niveau, quoi.
Et puis, il faut en parler aussi auprès des femmes, auprès du public ?
Oui, totalement. Il y a de plus en plus de sportives féminines de haut niveau et franchement, même avec des interventions comme ça, on se sent vraiment inclus dedans et je trouve ça vraiment important, comme aujourd'hui, de venir et de promouvoir le sport féminin, quoi.
Vous l'avez dit, il y a eu un effet JO. Est-ce que cet effet JO se fait encore ressentir aujourd'hui ? Et comment on va chercher les jeunes, encore une fois ?
Il s'est fait énormément ressentir, surtout en début de saison, donc aux alentours de juillet-août. Et donc on le verra après l'année prochaine s'il y a toujours cet effet. Et comment on fait ? C'est simple, on essaie de communiquer au maximum sur nos réseaux sociaux, on essaie d'intervenir dans le plus d'endroits possible, donc notamment dans les écoles, pour justement se faire connaître auprès des jeunes, faire connaître le club. Et on a souvent des jeunes qui du coup ne pratiquent pas de sport en club, donc du coup à ce moment-là que nous on arrive à leur faire plaisir à la fin de notre cycle et du coup on les invite sur des séances d'initiation et puis derrière il y en a la plupart qui viennent.
Alors attention, à vos marques, prêts, partez.
Cet événement est marrainé par Chloé Gallet, membre du club d'athlétisme de Fourmies. Elle est vice-championne du monde de relais 4x100 mètres, médaillée d'or du 4x100 mètres, 3 fois médaillée de bronze au championnat de France indoor en 2022 et 2023. En 2024, l'athlète a participé aux Jeux Olympiques de Paris, 4e au relais 4x100 mètres féminin.
En fait, c'est tout simplement de la passion, parce que ça fait plus de 17 ans que je vis dans mon sport, j'ai été éduquée dedans, donc Moi, c'est vraiment une grande fierté déjà d'avoir représenté mon pays et de tout simplement représenter les petites communautés locales qui sont proches de chez moi. Donc là, on est à Wallers. Moi, je suis originaire de Fourmies. Donc j'ai qu'une heure de route pour venir. Donc ça ne me dérange absolument pas de venir, de partager des moments, surtout dans le sport et d'inculquer certaines valeurs sportives.
On se dit que quand on a fait les JO, on s'est préparé physiquement, mentalement et qu'on veut faire vivre, continuer à faire vivre les JO en devenant ambassadrice d'événements comme celui-ci.
Alors moi, j'avais pas la prétention de devenir ambassadrice. Moi, on m'a juste demandé de venir pour représenter la course, rencontrer les sportifs, les athlètes, les enfants. Donc vraiment, pour moi, c'est une énorme fierté et puis ça me touche. Parce que je suis jeune, j'ai 23 ans et d'être ambassadrice pour de tels événements, surtout que là c'est la première édition, ça peps un petit peu quand même, c'est bien, c'est la première, ça donne vraiment de l'envie puis vraiment de la fierté de représenter vraiment tout ce qui est local.
Vous vous reconnaissez aussi en toutes ces personnes bénévoles qui prennent de leur temps pour organiser un tel événement comme aujourd'hui, 10 km en marchant, en courant pour découvrir le site mini d'Arambert?
Non, vraiment, je me mets vraiment à leur place parce que quand j'étais jeune, je faisais des crosses. Même encore maintenant, avec mon club, je suis bénévole. Donc, je m'occupe aussi de l'organisation, des départs de course, des résultats, des remises de trophées, de médailles. Donc, vraiment, je me mets vraiment à leur place. Et puis, je sais que c'est dur au démarrage, surtout pour une première édition, mais vraiment là, l'ambiance, elle est incroyable. Il fait beau, il fait chaud, il y a du monde quand même et les gens sont chaleureux. Donc vraiment, c'est une opportunité incroyable de venir et de mettre en avant les bénévoles, d'essayer de promouvoir les petites communes à faire des efforts pour organiser ce genre d'événement.
C'est la proximité aussi, c'est ça aussi, c'est le sport, ça amène la proximité.
Oui, exactement. En fait, le sport, c'est social, c'est familial. C'est quand c'est dans des bonnes bases généreuses, on va dire, il y a tout qui est réuni pour que ça se passe bien.
C'est quoi ici le but? C'est de soutenir les coureurs, les marcheurs?
Exactement. Puis c'est soutenir. On savait en plus là que ça allait être la première édition. Donc j'avais pas spécialement d'attente sur le nombre de participants. On nous a juste dit qu'il va y avoir 500 personnes. Je me suis dit pour commencer c'est très très bien, il y aura quand même du monde, c'est l'occasion parfaite. Et puis vraiment moi je veux inculquer des valeurs, je veux essayer de promouvoir le territoire. Et puis en fait ça me fait faire des rencontres incroyables. Là je parle avec des gens qui sont adorables, qui sont gentils. Vraiment c'est d'un point de vue social, c'est vraiment que de la réussite.
Pour vous, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous continuez les entraînements dans le Nord, à Paris?
En fait, je m'entraîne sur Fourmies. Donc, je suis licenciée au club de Maubeuge parce que c'est une entente. On a une entente avec la ville de Fourmies, Maubeuge, Ferrières. Enfin, voilà, c'est vraiment une grande entente. Et je m'entraîne vraiment essentiellement sur Fourmies. Et là, en fait, je reviens d'une petite pause parce que j'ai fini ma saison en salle. Et là, je viens vraiment tout juste de reprendre, là, il y a une semaine.
Vous prenez un peu de temps pour parler sport aussi?
Ah oui, bien sûr. Mais là, en fait, j'essaye d'intervenir vraiment quand j'ai le temps libre. Donc là, comme j'étais en pause et qu'il n'y a pas de compétition avant un bon petit moment, lorsqu'on me demande des événements comme ça, je réponds tout de suite oui.
Cette marche de 10 km, quelques consignes et peut-être avant de prendre la route. Sachez tout d'abord qu'il ne s'agit pas de course, il n'y a pas de chronomètre.
Retour sur la première édition de l'Urban Trail à Wallers-Arambert le 9 mars dernier au site minier d'Arambert. Ce reportage a été réalisé par Joris Nassens de Radio Club.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
L'association La Récréation vous donne rendez-vous les 14 et 15 juin 2025 à Fléchin pour le festival d'art de rue « Mais où va-t-on ?» Théâtre à ciel ouvert, en forêt, cirque aérien, marionnettes sur banc public, danse percutante, concerts déjantés, entresorts participatifs, venez découvrir une programmation éclectique, joyeuse, engagée et poétique pour rêver, rire et résister ensemble. En complicité avec les habitants du territoire. Infos et programmes sur l-arret-création.fr.
au-dessus des nuages, je déforme les formes, je voudrais que tu me formes, j'ai besoin d'apprentissage, ici les fous dorment et restent sages, il faudrait couler des yeux sur mes genoux pour que je sache ce qui se passe en dessous de tout, il faudrait que tu penses à m'embrasser dans le cou, me perdre dans le nord et rejouer au loup encore. Il faudrait descendre le ciel dessous mon visage pour que je garde la tête bien au-dessus des nuages. Je déforme les formes, je voudrais que tu me formes, j'ai besoin d'apprentissage, si les fous dorment et restent sages, il faudrait coller des yeux sur mes genoux que je sache ce qui se passe en dessous de tout. Il faudrait que tu penses à m'embrasser dans le cou, me perdre dans le nord et rejouer au loup encore.
Le 27 février dernier, la Cabalère, la communauté d'agglomération Béthune-Brouet Artois-Lys Romane, organisait une concertation territoriale sur l'intelligence artificielle en présence d'élus, de techniciens et d'un expert dans le domaine. Cette technologie bouleverse notre quotidien et bien évidemment celui des collectivités territoriales. J'ai demandé à Olivier Gacquer les raisons pour lesquelles il avait décidé d'organiser cette concertation.
Cette notion aujourd'hui, elle est dans notre quotidien en permanence. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Et je crois que c'est un sujet qu'il faut mettre sur la place publique, sensibiliser et acculturer à la fois nous concernant les élus locaux, c'est l'objectif de cette journée, mais également les techniciens qui sont au service donc du public. 30% de nos agents aujourd'hui utilisent déjà des solutions d'IA, comme on le dit en version raccourcie, sans forcément le percevoir, et avec des enjeux parfois aussi d'éthique et de déontologie. Il y a de la donnée, des choses confidentielles. Et donc c'est important que nous puissions finalement non pas aller contre cette technologie qui est déjà dans notre quotidien, mais un peu plus la dompter, la maîtriser et mettre des codes et des règles en place.
Alors bien sûr, là on parle d'un événement organisé par la Cabalère, mais en tant que maire de Béthune, vous avez toujours essayé d'être en phase avec ce qui se faisait hein, en matière de numérique, avec la Smart City hein, par exemple. Qu'est-ce qui vous amène à mettre autant en avant le numérique et ses solutions ?
Parce que je pense que c'est un moyen d'abord plus économique, parfois écologique, pour régler des problématiques. Par exemple, grâce aujourd'hui au numérique et à l'IA, on peut plus facilement repérer des réseaux d'eau potable, par exemple. On peut y mettre aussi une maintenance prédictive, anticiper des problématiques sur le réseau, sur l'approvisionnement en eau. On peut aussi détecter des fuites. On peut estimer les consommations et faire des relevés à distance. On peut donc affiner la facturation pour les habitants, les usagers. Et quand on évite comme cela bon nombre de gâchis, ça a des vertus donc écologiques et ça permet également de maîtriser le coût, la facture pour le contribuable à la fin qui est le consommateur. Donc vous voyez, rien que sur c'est un exemple très simple qui est celui de l'eau potable, sans aller trop loin parce que je pourrais vous parler aussi du contrôle du niveau des nappes phréatiques, l'impact du réchauffement climatique. on voit bien que pour le confort et pour le service public, pour les aspects économiques et le pouvoir d'achat de nos habitants, eh bien, ces solutions-là elles sont aujourd'hui incontournables.
Concrètement, pour les auditeurs qui résident sur le territoire de la Cabalère, qu'est-ce qui pourrait être fait, amélioré avec l'IA ? Est-ce que vous avez déjà d'autres idées ?
Alors oui, on a tout un plan d'action qu'on va bientôt mettre d'ailleurs en ligne, qui dans de nombreux domaines nous donne un peu les solutions. Ça serait vraiment très long d'en parler. Je viens donner un exemple sur par exemple le potable. Je voudrais aussi parler des métiers dits support que les gens ne voient pas. Par exemple, à la communauté d'agglomération, nous avons 1019 salariés, bien sûr, puisqu'on gère la collecte, on fait beaucoup de services nous-mêmes, donc ça génère beaucoup d'agents. Rien que sur la gestion des ressources humaines, des dossiers, sur la gestion des carrières, sur les plans de formation, sur les documents administratifs, c'est très long et ça mobilise beaucoup de personnel. Donc là, on va regarder comment on peut automatiser et faciliter, fluidifier les choses et assurer une forme de sécurité aussi dans les actes juridiques pour nos agents. Autre sujet aussi, par exemple, c'est la sécurisation juridique de nos marchés publics. Quand on doit écrire un arrêté, est-ce qu'il peut être attaqué ou pas ? Comment on peut s'organiser ? Là, des outils existent également. On va tester un outil qui s'appelle Génial, par exemple, avec le Fèvre d'Alloz, qui va nous permettre d'aller chercher dans la jurisprudence des références à une thématique qu'on aura donnée, nous aidera à rédiger un certain nombre de documents administratifs et à gagner du temps. Donc, fluidité, agilité, et donc c'est certainement du temps qu'on va pouvoir gagner sur la main-d'œuvre en interne et redéployer au service des usagers, voire faire des économies aussi d'échelle. Donc je pense qu'il y a ces services qui vont être vus, visibles tout de suite par les habitants. Si demain, comme on le fait actuellement, on étudie l'état des voiries dans les zones d'activité économique pour voir si on refait ou pas les voiries, à quel niveau et configurer des degrés de priorité. Ça, c'est concret, ils vont le voir. Autant à côté de cela, il y a aussi tous des métiers qui aujourd'hui consomment du temps et de l'argent et qui vont pouvoir être réduits. Et donc ces économies-là vont être bien sûr redistribuées au bénéfice des usagers.
Ce qui signifie aussi fatalement des pertes d'emplois ou pas ? Ou des redéploiements d'emplois ailleurs ?
Pertes d'emplois, j'y crois pas vraiment, même si on sait que potentiellement il y a 30 à 40% des métiers qui vont être touchés. Alors c'est vrai pour les collectivités territoriales. Ça va être vrai dans le privé également, hein, faut pas se tromper. Hein. Donc je crois surtout qu'il va falloir donc redéployer des agents. Il y a peut-être des missions, là on avait besoin de 4 agents, on n'a peut-être besoin que de 2. Donc oui, il y aura certainement une forme de polyvalence, en tout cas de formation. Je vais pas parler de reclassement interne parce qu'en fait, je pense qu'on a tous compris que dans nos carrières à nous, on va peut-être pas faire la même boutique tout au long de sa vie professionnelle. Et si on le fait, c'est le cas notamment quand on est fonctionnaire, ben on peut être amené à changer de service, à changer de mission. Il y a des missions techniques aujourd'hui qu'on a créées par exemple autour de la gestion hydraulique, la gestion donc la prévention des inondations, la gestion des cours d'eau. Donc il y a le côté technique, mécanique, il y a le côté stratégique, plan d'entretien, plan de suivi, etc. Tous ces métiers aujourd'hui, on ne les pratiquait pas il y a 3 ans par exemple. Donc vous voyez, je crois qu'on va pouvoir redéployer effectivement des missions en interne. Et c'est pour ça qu'il faut aussi avoir un dialogue de transparence avec les agents, avec les organisations syndicales, pour voir ce qu'il convient de faire au mieux, pour qu'il n'y ait pas de brutalité, mais une évolution toute simple dans le temps.
Olivier Gacquer, le président de la Cabalère, est par ailleurs convaincu que l'usage des intelligences artificielles permettra une meilleure efficacité politique.
Ah oui, moi ça je le crois. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, quand on doit prendre une décision politique, donc c'est en fonction d'un budget, hein, évidemment, des orientations qu'on a présentées aux habitants et pour lesquelles ils ont voté, ils ont fait un choix. Mais par exemple, si on a dit qu'on allait travailler sur la question du logement et augmenter le nombre de logements sur une commune, se pose la question de où est-ce qu'on met le lotissement, et surtout quand on met le lotissement, quels vont être les impacts en matière de services publics, c'est-à-dire l'eau, l'assainissement, la gestion des déchets, la mobilité, la circulation, etc. Et en général, on ne pense pas à tout cela en même temps. On pense au lotissement, au règlement d'urbanisme. Ah, on va faire tel bâtiment, ok. Ça va être quoi sa signature architecturale ? Il va être comment ? Ok, sur combien d'étages ? Ok, ça passe, on y va. Et puis après, on dit, ah, au fait, on met un arrêt de bus ou pas ? Après, donc, ça nous permet d'aller plus loin dans nos projets et dans l'impact de nos projets. Et donc, ce qui est important, c'est que l'élu reste décideur, bien évidemment, à la fin. Dans la mesure du possible, ce qui est encore mieux, c'est qu'il puisse aussi, s'il estime nécessaire, sur des questions structurantes, demander l'avis des habitants. Hein. Il y a des réunions de quartier, etc. On peut, de mon point de vue, nécessaire de le faire. Mais là aussi, parfois, quand on a un avis divergent entre habitants ou entre élus, le fait d'avoir finalement une lecture technique grâce à un outil qui va cartographier, qui va estimer un nombre de flux, etc. Ça permet de nous mettre d'accord aussi sur une solution parfois. Donc voilà, donc un outil d'aide à la décision, bien évidemment, moi j'en suis convaincu, et un modèle prédictif. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, ça existe déjà. J'ai vu, moi, des modèles en matière de sécurité publique où, en croisant les plaintes dans un commissariat et en croisant cela avec les flux, et les flux vidéo de caméras dans une commune, on pouvait à peu près dire à quel moment il pourrait potentiellement se passer quelque chose dans la ville et dans quel lieu.
Là, vous êtes dans un scénario à la Minority Report.
Exactement, mais moi, j'étais très dubitatif. Quand on voit que ça fonctionne, vous vous interrogez quand même. Et donc, ça permet là, non pas de dire il va se passer là quelque chose et puis on est dans la science-fiction, mais de dire si potentiellement là, il peut se passer quelque chose, j'ai 6 policiers à disposition ce soir, ben, je vais peut-être demander à une patrouille d'aller là de telle heure à telle heure pour lever le doute et au moins m'assurer qu'il n'y arrive rien. Donc je crois que c'est intéressant aussi, cette solution-là, non pas pour fliquer les gens, parce que voilà, Big Brother, c'est pas trop ma façon de voir. Et puis, quand je vous parlais de faits, ils sont anonymisés, donc on ne sait pas qui fait quoi. Mais d'essayer de se donner des tendances, des statistiques qui nous permettent finalement de mieux orienter nos ressources, là en l'occurrence, nos forces de l'ordre.
Un autre exemple très concret d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les territoires a été fourni par Jérôme Lévis, directeur général adjoint territoire innovant et durable au sein de la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers, lors de cette concertation territoriale sur l'intelligence artificielle à Béthune. Alors vous avez mis en place au niveau de la ville de Calais une solution basée sur l'intelligence artificielle pour évaluer, si j'ai bien compris, le patrimoine routier.
Tout à fait, c'est une application qui permet d'avoir un état de connaissance de la dégradation du patrimoine routier qui est basée sur une intelligence artificielle qui note les photos que l'on prend de façon automatique des rues qu'on parcourt.
Concrètement, comment avez-vous trouvé cette solution ?
Alors concrètement, on cherche des solutions, on bench un petit peu auprès de nos différents réseaux. On a surtout choisi cette solution qui s'appelle Vialytics, parce que c'est une solution qui a été labellisée par le CEREMA, hein, qui est un établissement d'État, et qui est basée sur une méthode de cotation du laboratoire central des ponts et chaussées. Donc ça nous donne quand même une certaine assurance et une certaine précaution dans la faisabilité de la chose, quoi.
Qu'est-ce qu'a eu comme résultat cet outil ?
Le résultat principal, c'est d'avoir une connaissance qui est très rapidement acquise et qui nous a permis de développer une stratégie d'investissement liée à cet état de connaissance. Qui plus est, c'est un état de connaissance qui peut évoluer quasiment en live dès lors qu'on repasse sur nos territoires, en repassant l'application. On peut facilement évaluer si nos stratégies de travaux sont efficaces et on améliore globalement l'état de la chaussée.
Concrètement, ça s'est passé comment pour les agents qui ont justement utilisé cette application, cette IA, pour justement effectuer ce relevé?
Alors, les agents, on a mobilisé, au-delà de l'ingénierie, des gens qui ont un peu réfléchi, on mobilise simplement une personne qui utilise un smartphone dans la voiture, dans un véhicule municipal, qui parcourt, pour le cas de Calais, les 250 km de voie. Et automatiquement, l'application prend une photo tous les 4 mètres et l'intelligence artificielle note toutes ces photos. Donc pour nos agents, ça a été relativement simple. Ça ne leur a pas enlevé de travail. Ça leur a permis simplement de se doter d'un état de connaissance bien plus approfondi et global qui nous permet, nous, derrière techniciens, de faire des propositions techniques aux élus.
Est-ce que sans l'IA, vous auriez pu faire le même travail aussi rapidement ?
Alors, aussi rapidement impossible. Je vous donne un exemple. En 2010, nous avions procédé avec un cabinet d'études à ce genre d'audit. Ça nous avait pris 6 mois avec 2 personnes à temps plein. Là, aujourd'hui, pour moi, un agent qui passe dans la ville, ça prend à peine 10 jours. Et le résultat est quasiment instantané, si ce n'est instantané. Du jour au lendemain, on a toutes nos chaussées sur lesquelles on est passé qui sont notées, qui sont cotées. Et en plus, c'est très didactique, c'est très pédagogique, c'est très communicant. Donc non, dans des temps identiques, ça aurait été impossible.
Et vous avez précisé une chose tout à l'heure, c'est que cet outil, il était basé sur les méthodes des ponts et chaussées.
Oui, tout à fait. En fait, l'algorithme dans l'IA, moi, je ne la connais pas. Par contre, elle est basée sur des procédures, des process qui sont un peu historiques des ponts et chaussées, qui datent des années 80, où on vise la fissuration, le pelage, les nids de poules, voilà. Mais donc c'est basé techniquement sur un socle qui est éprouvé, qui est connu et qui a fait ses preuves de longue date.
Est-ce que vous savez si d'autres agglomérations comme la vôtre utilisent cette application, cet outil ou ce type d'outil ?
Alors, je sais que donc l'entreprise avec qui nous travaillons sur le sujet a des contrats un peu partout en France ou en Europe d'ailleurs, et globalement elle se développe. Et Monsieur Gacquer, président de la Cabalère, semblait nous dire tout à l'heure qu'il allait également commencer à expérimenter via l'ITIC sur les voiries communautaires. Donc ça se développe. On a été un peu précurseur parce que je pense qu'en Hauts-de-France on a été les premiers, la première collectivité d'ampleur entre guillemets à utiliser cet outil. Mais voilà, donc c'est une start-up qui cherche à se développer et encore une fois dont le produit permet quand même de faciliter, d'accélérer les prises de décision.
Aujourd'hui, selon le troisième baromètre de l'Observatoire Data Publica, daté du 12 novembre 2024, plus d'une collectivité sur trois annonce avoir mis en place ou testé un système d'intelligence artificielle et 15% déclarent vouloir le faire prochainement. Et parmi elles, peut-être la vôtre. Ce reportage a été réalisé par Jean-Philippe Planck de Radio Plus.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Retrouvez tous les programmes et les émissions de Radio Campus sur le 106,6 ou en streaming sur le net www.campuslille.com.
Natacha. Depuis que j'ai quitté Paris, je pense beaucoup à toi. Et le soir, quand je m'endors dans le noir, je vois ton visage. Natacha, moi je reste attaché à ta douce personne. Bien sûr, on ne s'est pas toujours bien compris, et les malentendus ont eu raison de nous. Alors, je prends la route, je m'en vais si loin, mais pas pour oublier ces moments inouïs que j'ai passés avec toi. Natacha, moi je reste attaché à ta douce personne, ma tendre, ma mignonne, ma Natacha à moi. Bien sûr, on aurait pu faire durer les choses, mais c'eût été un peu artificiel. Et puis tu sais, ça nous aurait mené à des situations que des personnes subtiles et délicates Natacha, moi je reste attaché à ta douce personne, ma tendre, ma mignonne, ma Natacha à moi. Je n'oublierai jamais quand tu chantais le soir dans le salon d'hiver, au milieu des miroirs. Ta voix qui résonnait dans toute la maison, mais surtout dans mon cœur. Natacha, moi je reste attaché à ta douce personne, Natacha à moi. Natacha, moi je reste attaché à ta douce personne. Moi je reste attaché à ta douce personne, ma tendre, ma mignonne, ma Natacha à moi.